Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes toujours très marqués par les miracles du Seigneur Jésus et nous y voyons là la preuve, un signe de sa miséricorde. De rendre l'ouïe, de rendre la vue, de rendre l'usage des jambes ou même de rendre la vie, puisque Jésus ressuscite des morts sous nos yeux éblouis, nous font oublier trop souvent qu'il est une autre forme de miséricorde tout aussi importante que ces guérisons et que ces résurrections. Je veux parler de l'enseignement du Seigneur Jésus. Il s'agit là véritablement d'une miséricorde. Jésus est Dieu venu dans la chair pour nous parler au creux de l'oreille, à nous qui sommes durs de la feuille. Et là, c'est une miséricorde. Il le fait notamment par ces paraboles auxquelles nous sommes trop habitués et que, du coup, nous écartons vivement. Après avoir pieusement écouté l'évangile chanté du prêtre, nous acceptons, nous tolérons la traduction par le prêtre, mais enfin, ensuite, nous nous endormons gentiment parce que ces paraboles, nous les connaissons par cœur et que le sens de ces paraboles est assez simple à trouver. Nous les trouvons bien mignonnes, mais il faut bien dire, elles ne nous impressionnent pas autant que les miracles. En un mot, elles nous semblent bien moins utiles, bien moins efficaces que les miracles. Je crois que c'est une erreur, parce que les paraboles, comme tout l'enseignement du Seigneur Jésus, introduisent l'homme dans quoi ? Dans la vérité tout entière. Vérité dont Jésus nous dit qu'elle nous rendra libres. C'est assez paradoxal que ce qui nous rend libres n'est pas premièrement l'usage de nos facultés que Jésus peut nous rendre par certains miracles, encore que ce soit très beau et très important pour ceux qui souffraient auparavant. Cela n'est pas primordial. On peut être tétraplégique, on peut être au bord du gouffre et néanmoins être libre parce qu'on est introduit à la vérité tout entière. Voyez donc l'importance de l'enseignement du Seigneur. C'est d'abord l'enseignement qui doit nous attirer notre attention et qui doit nous nourrir, mes frères, plus que les miracles que nous pouvons attendre du ciel. Ainsi, quand le Christ nous offre cette parabole du bon grain et de l'ivraie que nous connaissons parfaitement et dont la traduction, ou je veux dire l'interprétation, nous saute aux yeux, il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie pour comprendre, précisément parce que Jésus enseigne aux petits que nous sommes. Il est donc normal que nous accédions à cette vérité. Mais il faut lui rendre grâce quand le Seigneur nous enseigne ces paraboles, parce qu'il nous introduit à la vérité et que cette vérité nous libère, encore une fois. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Sur quelle vérité le Seigneur nous instruit-il ? Eh bien, une vérité qui nous tient à cœur, puisqu'il s'agit du mal. Le mystère du mal, celui auquel nous sommes confrontés au moins 7 fois le jour, puisque, comme tout juste que nous essayons d'être, nous péchons au minimum 7 fois par jour. Ce mystère du mal qui, cruellement, nous écrase à plusieurs reprises au cours de notre vie, qui est une véritable énigme et qui écarte tant et tant d'êtres humains depuis le commencement de leur Dieu, au motif qu'ils y voient soit la preuve de l'inexistence de Dieu, soit la preuve que Dieu, qui est tout-puissant, laissant faire le mal, est un sadique, ou au moins qu'il est indifférent à l'égard de l'homme. Or, que trouve-t-on dans cette parabole ? Mais justement, une réponse à toutes les fausses conceptions du mal. Avant que le Seigneur nous prodigue dans le reste de la parabole, les conseils quant à la conduite à tenir face au mal. Les fausses conceptions du mal, mes frères, vous les connaissez toutes. Peut-être qu'elles vous trottent en tête de temps à autre, peut-être qu'autour de vous, régulièrement, on vous les oppose. On vous les objecte lorsque vous voulez rendre témoignage de la vérité. Il s'agit premièrement de considérer que le mal procéderait de Dieu. Vous voyez les serviteurs du maître qui s'approchent de lui et qui lui disent « Maître, nous t'avons vu semer du bon grain et voici qu'il y a de l'ivraie. Est-ce toi qui as semé de l'ivraie dans ton champ ?» Autrement dit, le mal procède-t-il de toi, maître ? Évidemment, le maître de la moisson, c'est Dieu Tout-Puissant. Voilà que les hommes demandent à Dieu, naïvement, s'il ne serait pas par hasard l'auteur de ce mal qui sévit un peu partout. Que répond le maître du domaine ? Il leur répond que ce n'est pas lui qui est l'auteur du mal, de l'ivraie, ce n'est pas lui qui a fait cela, c'est un ennemi. Et la traduction est toujours un peu fautive. Dans le texte latin que j'ai chanté auparavant, que lisons-nous ? L'ennemi du genre humain. Celui qui est homicide depuis le commencement. Nous voyons très bien de qui Jésus veut parler ici. Il s'agit du démon. Autrement dit, cette parabole commence par nous enseigner que Dieu n'est pas l'auteur du mal, que l'auteur du mal c'est un autre que lui, qui lui est subordonné, qui vient après lui. Lui a, sous les yeux de ses serviteurs, semé le bon grain, et il en reconnaît la paternité, et il dénonce celui qui est venu semer de l'ivraie pendant la nuit, qui n'est pas lui, mais qui est un autre. Vous me direz, ça, monsieur l'abbé, vous êtes gentil, nous le savons depuis le début, depuis les genoux de nos parents, pour ceux d'entre vous qui ont la grâce d'avoir été élevés dans la religion catholique, nous savons bien que c'est Satan qui est l'auteur du mal. Oui, le Seigneur Jésus enseigne à travers cette parabole, pas seulement nous qui sommes élevés dans la foi catholique, mais également toute l'humanité. Je vous rappelle que l'Église et Jésus, l'Église étant mère et maîtresse, ourbi et orbi pour toute l'humanité, Jésus est, a fortiori, maître de vérité pour toute l'humanité. Et demandez autour de vous, posez la question si ce qui vous semble évident, que Dieu ne soit pas l'auteur du mal, est aussi évident pour vos contemporains. Je ne le crois pas. La plupart de nos contemporains pensent que Dieu est l'auteur du mal. On a ici la clé du mal, puisque d'autres considèrent que le mal ne viendrait pas de Dieu, mais le mal viendrait de la créature humaine qui serait purement mauvaise. Je vous renvoie là à toutes les conceptions philosophiques dévoyées, toutes ces conceptions philosophiques de l'entrée de la modernité depuis la fin du XIVe siècle jusqu'au siècle des Lumières. Tu parles de lumière, sombre lumière, on dit certains, puisqu'on y conçoit un homme qui est intrinsèquement mauvais la plupart du temps. L'homme est un loup pour l'homme, rappelez-vous cette phrase redoutable. L'homme ne serait qu'un tas de boue. Voilà en quelle estime la plupart des régimes totalitaires tiennent l'être humain. Il ne serait qu'un tas de boue. Nous voyons ici encore par cette phrase, c'est un ennemi qui a fait cela, qu'il ne s'agit pas d'inculper l'homme de tout le mal, et en tout cas de l'origine du mal. Vous voyez que non seulement cette courte phrase disculpe le Créateur, mais également disculpe la créature que nous sommes, nous, les êtres humains. Ce ne sont pas les serviteurs du Maître qui sont inculpés d'avoir semé de l'ivraie. C'est un autre que Dieu, un autre que la créature humaine. Il s'agit d'un être intermédiaire, nous le savons, Lucifer, qui est dénoncé au chapitre 3e du livre de la Genèse. Cette courte phrase, encore une fois, est libératrice, vous voyez, mes frères. Parce que sans cesse, nous sommes tentés d'incriminer l'être humain, de reconnaître en lui la source de tous les maux. Avouez que, bêtement, chaque jour, lorsqu'une personne en face de vous tient des propos qui semblent qui sont en contradiction avec la vérité, ou lorsqu'une personne adopte un comportement qui vous scandalise, et à juste titre, très souvent, alors qu'il est tentant de voir en cette personne l'incarnation du mal, mes frères, il faut considérer que cette personne n'est pas la première source du mal. Elle a été créée bonne, elle a été créée épi de blé, si l'on veut, pour filer la métaphore de cette parabole. Elle a été créée épi de blé et l'ivraie a été semée en elle par un autre qu'elle. Notez que si le blé est semé pendant le jour, l'ivraie, elle, est semée pendant la nuit. Ce qui veut dire que le mal advient en nous lorsque nous somnolons. Bien sûr, vous me direz que nous sommes touchés par le péché originel bien avant que de pouvoir somnoler. Nous sommes touchés par notre origine même, dès la conception dans le sein de notre mère. Êtes-vous donc responsable, suis-je donc responsable de ce péché originel qui affecte ma nature depuis ma conception? Bien sûr que non. Encore une fois, il s'agit de cette nuit pendant laquelle l'ennemi du genre humain est venu semer cette ivraie. Nous n'étions pas conscients, nous n'étions absolument pas responsables lorsque notre nature a été grevée de ce péché originel. Vous voyez donc que dans sa source, le mal ne relève pas de la volonté humaine. Le mal relève de la volonté d'un être autre que l'être humain. Il ne s'agit pas de disculper à peu de frais chacun des êtres que nous sommes et responsables du péché chacun que nous sommes. Il s'agit simplement de dédramatiser ce mystère du mal, en n'inculpant pas immédiatement l'être humain de tous les vices et de tous les maux. Encore une fois, l'être humain est bon, et il a été affecté comme par devers sa volonté, comme contre sa volonté du mal. La seule responsabilité qui lui incombe, c'est la façon dont il va faire face à ce mystère du mal. Va-t-il accepter de laisser croître l'ivraie, ou va-t-il mettre en valeur le bon grain ? Mes chers amis, il y a, je crois, deux manières de vivre en chrétien. Une mauvaise manière et une bonne manière. Vous vous en doutez, une mauvaise manière qui serait celle qui consiste premièrement à se focaliser sur l'ivraie qui est en nous. Et surtout sur l'ivraie qui est dans notre prochain, cela va de soi. Mais en l'ivraie qui est en nous, car je crois qu'aussi souvent que nous regardons l'ivraie dans l'autre, nous sommes tentés par une sorte de fascination de l'ivraie qui est en nous, de la méchanceté qui est en nous, du péché qui est en nous. Nous sommes accablés, nous sommes écrasés parfois, avouez-le, en tout cas pour ma part, ce n'est pas assez le cas, mais ça l'est tout de même. Je suis parfois immobilisé par mon péché. J'ai l'impression de ne pouvoir jamais m'élever vers mon Dieu et de ne pouvoir jamais accéder à la gloire du ciel. Je suis écrasé par cette pesanteur qu'inscrit en moi et le péché originel et le vice, c'est-à-dire l'accumulation des péchés personnels. Je crois que la mauvaise posture, celle qui n'est pas vraiment catholique, consiste encore une fois à se laisser fasciner par ce péché, ou au moins à se laisser obnubiler par ce péché, et à réduire notre vie spirituelle à combattre ce péché seulement. La bonne conduite, la conduite du catholique, celle qui est conforme au plan de Dieu, qui ne laisse pas toute la place à Satan et au péché que Satan produit en nous, c'est celle qui consiste à regarder d'abord le bon grain qui est en nous. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. S'il demande à ses serviteurs de ne pas faire le tri tout de suite entre le bon grain et l'ivraie, s'il demande à ses serviteurs, en gros, de regarder croître l'ivraie sans se laisser obnubiler par l'ivraie, c'est, je crois, pour nous montrer que, premièrement, en tant que catholiques, nous devons regarder le bien qui est en nous. Cette image de Dieu qui est en nous, cette image indélébile de Dieu qui est en nous. En tant que nous sommes une créature humaine, mes frères, et nous ne serons jamais annihilés par Dieu, parce que Dieu n'annihile pas ce qu'il a tiré du néant, nous avons du bien en nous. Mais il n'est pas jusqu'à Lucifer qui ait du bien en lui, vous le savez. Il est également à l'image de Dieu, et par sa nature, il est une image plus éminente de Dieu que celle que nous portons en nous, par sa nature. Mais par grâce, nous avons ce don inestimable d'avoir en nous une image plus parfaite de Dieu que Satan lui-même. Mes frères, il faut savoir, je crois, regarder, ce n'est pas de l'optimisme béat, ce n'est pas de la méthode couée, ce n'est pas s'acheter une conscience à peu de frais que de regarder le bien qui est en nous et le bien qui est en l'autre. Il n'est pas une personne humaine dans laquelle il n'y ait pas cette racine de bonté. Chaque personne humaine, fût-ce Hitler, Staline ou d'autres ordures du genre humain, car il faut appeler ces personnes par leur nom tout de même, qui est en elle une racine bonne et une possibilité jusqu'au dernier instant de répondre à Dieu parce qu'ils sont à l'image de Dieu, de souffler sur la braise qui est sous un amas de cendres pour qu'enfin cette braise puisse recréer un feu qui soit à la gloire de Dieu. Voyez, mes frères, si je n'avais qu'un conseil, ce matin je suis bref, mes conseils sont très succincts, sont très pauvres. Mes amis, je crois qu'il faut une seule chose dans notre vie spirituelle, regarder le bien qui est en nous, regarder le bien qui est dans l'autre, et pas premièrement le péché. Laissez à Dieu le soin d'évacuer votre péché. Allez donc vous confesser, je ne dis pas du tout qu'il faut s'écarter des sacrements et ne jamais regarder le péché qui est en nous, ni dénoncer celui qui est en l'autre, mais pas premièrement. Il faut laisser faire à Dieu cette œuvre de tri, car à lui seul revient le jugement. À lui seul revient le jugement. Pourquoi ? Parce que lui seul sait ce qui est au cœur de chacun. Lui seul sait la part de bien et la part de mal, la responsabilité personnelle. Mes frères, je vous en supplie, ne vous jugez pas vous-même et ne jugez pas les autres. Il suffit d'ouvrir le Nouveau Testament. À chaque page du Nouveau Testament, Jésus-Christ et ses apôtres nous supplient de ce que je vous demande ce matin, ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. Faites le bien, suppliez Dieu que ce petit épi de blé que vous êtes puisse croître, encore une fois, à sa gloire et pour faire le bien autour de vous. Mais ne soyez pas focalisés par le péché, ce serait donner trop d'importance à l'ennemi du genre humain, trop d'importance à Satan, ce serait lui donner une victoire à laquelle il n'a pas droit. Parce qu'il n'est qu'une créature et que par un étrange phénomène de justice immanente, la vérité, le bien, l'épi de blé seront toujours victorieux de l'erreur, du mal et de l'ivraie. Voyez que Dieu a même, et je finis par là, Dieu a même cette toute puissance. Pourquoi Jésus se permet-il de demander que nous laissions croître le bon grain et l'ivraie ? On pourrait trouver bien présomptueux. Mais Jésus sait qu'il est tout puissant. Jésus sait que son Père est tout puissant, que lui est tout puissant et que le Saint-Esprit est tout puissant. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'effacer d'un claquement de doigts, si j'ose dire, un doigt divin tout de même, le péché et jusqu'à sa racine. Si vous ne me croyez pas, ouvrez les ouvrages de la petite Thérèse de l'enfant Jésus ou écoutez ce chant que, à droite à gauche, vous pourrez entendre. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, vous connaissez peut-être ce chant ou ce texte, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Pourquoi ? Parce que mon péché n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Dieu est capable, il l'affirme à Sainte Catherine de Sienne, dans ce que Sainte Catherine reporte dans son dialogue, il l'affirme à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la petite Élisabeth de la Trinité, et à bien des saints encore, qu'affirme-t-il que le péché n'est rien et qu'il peut, je vous le dis, en effacer jusqu'à la racine. D'autres mystiques encore, ils sont tellement nombreux que j'omets de vous en faire la litanie, d'autres mystiques ont reçu de Jésus cette certitude. Là encore, quand on voit la vie de ces mystiques, la gravité de leur vie, la virilité de leur christianisme, je vous prie de croire que ce ne sont pas des bisounours qui parlent et qui projettent en Dieu des velléités qu'ils ont au fond de leur cœur, voyez, d'une vie simple et d'un achat facile de la gloire. Non, ils reçoivent de Jésus cette certitude que Dieu oublie le péché. Est-ce possible ? Dieu, qui est, j'allais dire, la mémoire même, qui peut jusqu'à oublier le péché. Voyez donc que nous n'avons pas lieu de nous en faire, pourvu que nous passions toute notre vie, chacun des instants de notre journée si possible, à cultiver le grain de blé qui est en nous, nous n'avons pas à nous en faire quant au péché, et quant aux conséquences du vice, et chez nous, et chez les autres, et à l'échelle sociale. Dieu est victorieux. Pourvu que nous acceptions de coopérer à notre place à la croissance de l'épi de blé, à la croissance de cet arbre-là, qui sont toutes sortes de métaphores bien humaines, bien impuissantes à décrire cette splendeur du royaume de Dieu qui croît chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.